Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la socialisation des enfants qui sont en unschooling ou dans des écoles aux apprentissages libres et autonomes. Bienvenue à tous sur le podcast Libre pour apprendre qui s'adresse à toute personne désireuse de comprendre comment un enfant peut apprendre quand il n'y a pas de programme imposé ni d'évaluation notée. Alors, comme toujours, je suis accompagnée des bruits de la forêt pour vous parler durant ce podcast. Alors, cette question de la socialisation des enfants, elle revient souvent, entre autres, peut-être moins quand ils sont dans une école aux apprentissages libres et autonomes, puisque c'est une école et qu'il y a plusieurs enfants, mais elle revient surtout dans le unschooling. Et ça m'a toujours étonné énormément qu'on dise que des enfants qui ne sont pas à l'école ne puissent pas être socialisés. Parce qu'on voit bien dans une école aux apprentissages libres où il y a beaucoup d'interactions, où les enfants cohabitent ensemble toute la journée, eh bien qu'il ne suffit pas juste de mettre des enfants ensemble pour qu'ils apprennent à se socialiser, bien loin de là. Au contraire, il est important vraiment de pouvoir les accompagner et les aider. Ça m'arrivait quand j'étais petite que les adultes, quand on venait vers eux pour leur demander de régler un problème parce que on se faisait embêter par un copain ou par un frère et sœur, et qu'on s'approchait des adultes en disant là ils m'embêtent et tout, l'enfant que j'étais ne savait pas encore formuler en fait une vraie question et de dire plutôt à l'adulte: mais là, je suis en difficulté, je ne sais pas comment solutionner un problème de communication avec une autre personne et j'aurais besoin d'aide ou d'un modèle qui puisse me guider. Alors, à l'époque, comme je ne savais pas formuler les choses de cette manière-là, eh bien, ce que rétorquaient les adultes, c'était souvent « viens pas cafeter » ou bien « débrouille-toi tout seul, je suis occupée » ou « allez dehors jouer, j'en ai marre de vos chamailleries », etc. Alors effectivement, les enfants, quand ils s'approchent, même des fois quand je règle des difficultés ou que je vois des collègues régler des difficultés entre des interactions conflictuelles entre deux enfants, eh bien d'autres s'approchent. Et c'est un bon moyen pour eux d'apprendre à savoir faire, en fait, savoir comment on se socialise dans la vie, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les conflits. Et là, il y a vraiment une partie extrêmement importante que je trouve que même en unschooling, eh bien, c'est très important de le faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas entouré d'autres enfants qu'on ne peut pas le faire en unschooling. Forcément, quand on est en unschooling ou n'importe où, l'enfant va interagir soit avec des adultes, soit avec d'autres enfants, que ce soit sur une place de jeu ou que ce soit dans le quotidien de la famille pour prendre une décision, pour savoir où on va faire une sortie ou comment on va s'organiser, à quel moment on va manger, qu'est-ce qu'on partage à table, si on a des désaccords sur ce qui s'est passé dans la journée, etc. etc. Il y a une multitude de situations dans lesquelles on peut se trouver en conflit, que l'on soit directement avec ses parents ou avec d'autres enfants. Et le fait d'être même juste avec ses parents permet déjà d'apprendre un certain nombre de compétences et de pouvoir se socialiser. Parce qu'on voit aussi qu'un enfant qui a été soutenu par des adultes, qui a appris des modèles, que aussi l'adulte a accompagné depuis l'enfance, peut-être déjà assez rapidement, quand l'enfant commençait à parler, et que dans des situations où l'enfant éprouvait des émotions, une chute par exemple, si le parent vient et puis met des mots sur ce que vit l'enfant, tu as peut-être mal, tu as eu peur, l'enfant va progressivement commencer à intégrer le vocabulaire qui gère les émotions, qui permet de les exprimer en tout cas. Donc il va pouvoir sortir d'une partie du cerveau qui se trouve plutôt au centre de notre cerveau, de la tête, qui s'appelle le limbique, qui est le ressenti émotionnel, pour venir le décoder plus au niveau du lobe préfrontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui se trouve juste derrière le front. Et quand cette connexion se fait, parce que des mots sont mis sur ses émotions, en fait, sur ce que vit l'enfant et qu'il peut nommer la colère, la tristesse, la peur, la joie ou bien d'autres sous-émotions, sous-sentiments, eh bien, ça devient plus facile pour lui de communiquer sur ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est vraiment une des bases pour arriver à gérer les conflits et à être de plus en plus social au niveau de ses interactions dans la vie courante. Et c'est malheureusement quelque chose qui est encore peu ou parfois malheureusement pas du tout exploité et mis en action au sein de l'école. Donc pour moi, de dire que l'école socialise les enfants, quand je vois que ce genre de choses n'est pas fait, ça me fait un peu sourire. Ensuite, il y a le fait déjà de pouvoir exprimer ses émotions. Quand on parle de communication non violente, Marshall Rosenberg a bien expliqué un déroulement possible qui est pour moi très efficace. C'est déjà de pouvoir décrire la situation, la décrire avec des faits, sans interprétation, mais juste des faits. Et ensuite de pouvoir dire quelle émotion on avait à ce moment-là quand il s'est passé tel ou tel événement. Le fait que quelqu'un soit en retard, eh bien, quand tu es en retard, je me sens stressée parce que je ne gère pas le fait de devoir réorganiser tout ce qui va se passer, par exemple. Donc, le fait de pouvoir décrire, de pouvoir expliquer émotionnellement ce qu'on vit, c'est déjà une base très, très importante. Ensuite, la personne qui est en face, eh bien pour un enfant, il y aura aussi un apprentissage dans la capacité d'écoute et d'entendre vraiment ce que dit l'autre et de pouvoir le reformuler correctement. Parce que quand quelqu'un nous dit « quand tu es en retard, ça me stresse parce que je ne sais pas comment me réorganiser » et puis que l'autre personne en face décode « t'es énervé parce que je suis en retard et puis tu ne m'aimes pas », non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu expliquer autre chose et écoute bien jusqu'à ce que tu arrives à entendre ce que j'ai voulu dire. Donc ça, c'est une deuxième étape qui est aussi importante. Ensuite, il y a l'étape suivante, donc c'est de pouvoir à son tour écouter ce que l'autre a à dire, qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à cet événement de retard ou autre chose. Et finalement, de pouvoir le reformuler aussi dans l'autre sens. Et quand on a réussi à exprimer des émotions par rapport à un événement, il s'agit ensuite de pouvoir expliquer quel est notre besoin derrière cette émotion et cet événement qui s'est produit, en tout cas derrière l'émotion. Parce que l'émotion est un vecteur en fait d'information qui nous indique qu'il y a quelque chose à réajuster, que nos besoins ne sont peut-être pas satisfaits ou alors qu'ils sont trop. Dans la satisfaction, nos émotions, ça nous donne une indication. Donc, ça va correspondre à un besoin. Et là, c'est aussi important pour l'adulte qui veut accompagner un enfant dans le fait de pouvoir être social et de pouvoir gérer les choses en interaction avec d'autres, de mettre des mots sur ses besoins. Alors, la communication non violente apprend qu'il y a une soixantaine de besoins qui sont communs à toutes les personnes et on ne les a pas toujours de la même façon, au même endroit, mais de pouvoir aller piocher dans ces 60 besoins qui peuvent être le besoin de dormir, de manger. Enfin, Abraham Maslow avait aussi répertorié le besoin de sécurité, de célébrer, d'être en joie, d'apprendre, etc. Donc, quand la personne peut exprimer que derrière le besoin de ne pas stresser quand l'autre est en retard, enfin, quel est le besoin derrière le fait de stresser quand l'autre est en retard, c'est peut-être, d'être rassuré que l'autre va arriver. Alors là, l'autre va exprimer de nouveau, le besoin, c'est que tu aurais besoin d'être rassuré, puis de savoir comment, ça te permettrait de savoir comment tu peux t'organiser. Et là, quand de nouveau l'écoute a été faite des deux côtés sur les deux besoins, on va pouvoir aller dans l'idée d'une solution. Et entre les deux, par exemple dans la situation présente d'un retard, on pourrait décider qu'en fait, je n'étais pas avertie de mon retard et je te sens sous stress, donc la prochaine fois, je te mettrai un message où je me donnerai les moyens que tu sois informé de que je suis 5 minutes en retard ou une demi-heure en retard, etc. Donc on va aller seulement dans les solutions après avoir mis en place ce questionnement autour des émotions et des besoins. Je vous donne là un exemple d'une application donc de la gestion de conflits en communication non violente ou communication bienveillante. Et c'est vraiment pour moi une des bases de la socialisation qui peut très bien se faire entre adultes et enfants autant qu'entre des enfants ensemble. Ça peut être aussi un enfant qui est en unschooling et puis qui doit gérer une situation sur une place de jeu ou dans une quelconque interaction avec un autre adulte. Et de vraiment pouvoir accompagner les enfants dans cette démarche-là, c'est pour moi la plus grande source de socialisation qu'on peut leur offrir, bien plus que juste de les mettre ensemble dans un groupe et d'attendre qu'ils interagissent correctement. Ça se produira extrêmement rarement s'ils n'ont pas des clés et un soutien, un modèle qui peut leur montrer la manière peut-être plus efficace de procéder. Parfois même, les modèles iront à l'encontre d'une résolution de conflits harmonieuse et ce sera peut-être la loi du plus fort qui sera leur modèle par rapport aux adultes qui les entourent et qui interagissent avec eux. Et c'est ce que vont reproduire les enfants. Donc, pour moi, vraiment, il y a une importance énorme à sortir de cette idée de juste pour socialiser les enfants, il faut les mettre ensemble en groupe et ça va suffire, pour aller vraiment vers n'importe qui peut aider l'enfant à se socialiser du moment qu'on est deux et qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Le fait d'être deux engendre forcément cette conséquence-là. Eh bien, ça va déjà permettre à l'enfant de se socialiser. Et même s'il a beaucoup d'interactions avec un parent en particulier, plus qu'avec de nombreuses personnes durant la journée, mais qu'il a su exprimer ce qu'il avait besoin et ses émotions, ça va l'aider dès qu'il arrivera dans un groupe plus large avec d'autres enfants. C'est aussi un petit peu comme ce matin, je faisais de la danse avec ma voisine qui a proposé un cours de danse. Eh bien, pour apprendre les pas, on a d'abord fait sans la musique et lentement, un à un, chaque pas, avant d'accélérer pour pouvoir ensuite danser sur la musique. Eh bien, c'est la même chose. Un enfant qui socialise à la maison, eh bien, peut très bien apprendre ça petit pas par petit pas pour pouvoir danser mieux avec les autres enfants dans la gestion de conflits quand il sera en plus grand groupe. Si vous estimez, vous aussi, qu'il ne suffit pas simplement de mettre des enfants ensemble pour qu'ils se socialisent, mais qu'il y a peut-être d'autres choses à leur amener et entre autres d'être des modèles pour eux, eh bien je serais intéressée d'avoir vos commentaires. Si ce que je partage sur ce podcast vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner pour être averti des prochains épisodes. Et la prochaine fois, justement, nous verrons quelles sont les quatre étapes dans un apprentissage. Par quelle phase passe un enfant qui entre dans des apprentissages libres et autonomes? Il ne va pas être toujours en action, bien au contraire. Même parfois la phase d'inactivité sera longue et importante, mais ô combien riche et lui permettra ensuite de vraiment s'engager et de s'investir dans les apprentissages qu'il va souhaiter réaliser. Alors je me réjouis de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois.